Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Les titres de cette édition, Emmanuel Macron a entamé une tournée dans le Golfe. Ce vendredi, le président français a conclu un accord avec les Émirats Arabes Unis portant sur l'achat de 80 Rafales. Sur le sens de cette tournée, nous écouterons la sénatrice Nathalie Goulet. En Irak, 10 morts dans une attaque attribuée à Daesh. En visite à Chypre, le pape lance un appel à la fraternité et au dialogue. Il devrait repartir avec 50 migrants à bord de son avion. Enfin, 64 associations veulent peser sur la présidentielle et lancent le pacte du pouvoir de vivre. Entretien avec Amandine Le Breton-Garnier de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Emmanuel Macron dans le Golfe, première étape les Émirats Arabes Unis où le président français a signé un contrat géant qui porte sur l'acquisition de 80 avions de combat Rafale. Il s'agit d'une commande ferme, la plus importante jamais signée par Dassault Aviation dont l'action a bondi de 10%. Un accord qui porte aussi sur l'achat de 12 hélicoptères. Le montant de cette vente est de 16 milliards d'euros au total. Une signature qui a eu lieu en présence de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandeur des forces armées des Émirats Arabes Unis. Le président de la République doit se rendre ensuite au Qatar, également client du Rafale, et en Arabie Saoudite. Lors de ses entretiens avec les responsables du Golfe, Emmanuel Macron évoquera plusieurs dossiers régionaux comme le Liban. Quel sens donner à cette tournée du chef de l'État dans la région ? On écoute Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne.
Les relations peuvent toujours être améliorées. Vous savez, on a beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy ses visites express. C'est vrai que le président est très occupé et qu'il est en fin de mandat. Mais ces pays nécessitent un peu plus de temps en règle générale. C'est quand même une visite très rapide. Je pense que c'est nécessaire néanmoins. Je pense aux Émirats notamment et à l'Arabie Saoudite. Évidemment, il y a l'exposition universelle à Dubaï, mais il y a aussi les conséquences des accords d'Abraham qui sont un changement phénoménal de paradigme dans la région. Ça, c'est la première chose. Et puis les accords de défense que nous avons évidemment avec les Émirats. Quant à l'Arabie Saoudite, les transformations de la société sont visibles à l'œil nu, si j'ose dire. Et je pense que c'est bien que le président voit par lui-même, pour peu qu'il ait le temps de voir Riyad et sa population, à quel point les choses ont changé.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'Arabie Saoudite ? Quels changements sont visibles aujourd'hui à l'œil nu ?
La situation dans la ville, déjà, mobilisation de la jeunesse, de la musique partout, des salles de sport partout, la fin de la baïa obligatoire. Il reste évidemment la tradition du voile et la baïa, mais elle n'est plus obligatoire, même pour et surtout pour les étrangers, ce qui est déjà ce qui est un changement. Moi, à titre personnel, je respecte les lois du pays dans lequel je suis, et le voile sur la tête, notamment, n'était plus obligatoire pour les femmes étrangères depuis plus de 10 ans, et pour les saoudiennes également. Bon, il reste la tradition. Moi, j'ai rien pour ni contre. Je respecte encore une fois les lois du pays dans lequel je suis, mais il y a une effervescence et une modernisation du pays qui est spectaculaire.
Avec aussi l'envie d'avoir une économie un peu plus ouverte.
Oui, bien sûr. De toute façon, c'est Alula, c'est Gra, c'est la future ville de Neom, évidemment. Et puis la vieille ville de Riyad qui a été complètement refaite avec plusieurs musées, une scénographie, etc. C'est évident que ce pays veut attirer des touristes et que l'image doit changer et que il faut que le président voit ce qui se passe, parce que lui-même ayant déclenché une vision 2030 pour la France, ce qui est quand même la copie conforme de ce qu'a fait le prince Mohammed Ben Salman avec sa vision 2030, il est évident qu'il faut être témoin de ce qui se passe en Arabie en ce moment. Rien n'est parfait, personne cautionne ce qui ne doit pas être cautionné, mais encore une fois, moi j'y étais il y a une quinzaine de jours, les progrès sont spectaculaires pour les gens qui connaissent le pays depuis longtemps.
Le président est accompagné de la ministre de la Culture. Il y a aussi une diplomatie culturelle importante entre l'Arabie Saoudite et la France.
C'est la France qui s'occupe du site de Al-Ula. C'est Gérard Mestrallet qui s'occupe de ce site et de son exploitation. Et puis c'est évidemment des archéologues français qui ont mis à jour ce site depuis longtemps et qui y travaillent depuis longtemps.
Cette visite est aussi l'occasion d'évoquer un certain nombre de sujets régionaux.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a des sujets diplomatiques qui sont le Qatar et son financement des frères musulmans. Il faut peut-être que ça s'arrête. Ensuite, les rapports avec l'Iran qui sont très importants. La politique des États du Golfe à l'égard du Liban en décrépitude complète. Ça me semble des sujets éminemment importants pour le président de la République et je pense qu'il va les évoquer.
Le soutien notamment au peuple libanais qui vit dans une situation dramatique aujourd'hui.
Oui, enfin, si c'est pour donner de l'argent à des gens qui ensuite sont sur les Pandora Papers, excusez-moi, pardon, mais c'est peut-être pas la peine que le Liban fasse la manche dans les pays du Golfe. Il faut déjà que le Liban récupère l'argent qui a été détourné par des élus corrompus. Et puis, il faut trouver un autre système de fonctionnement avec les pays du Golfe qu'aller faire la manche, en tous les cas pour le Liban.
Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne. Et puis au Liban, le ministre de l'Information, Georges Cordahy, annonce sa démission. Ses propos sur la guerre au Yémen avaient provoqué une grave crise diplomatique entre le Liban et les États du Golfe. Il a annoncé sa démission, je cite, pour donner une chance au Liban. En Irak, au moins 10 personnes tuées dans une attaque attribuée à Daesh. L'attaque s'est passée dans le nord du pays. Les victimes sont 3 civils et 7 combattants kurdes. Au deuxième jour de sa visite à Chypre, le pape François a renouvelé ses appels à la fraternité et au dialogue. Ce vendredi, il a célébré une grande messe devant des milliers de personnes, parmi lesquelles 1 millier de Libanais. Le pape doit porter un message de fraternité aux migrants. Une 50aine d'entre eux devraient revenir avec lui et obtenir du Vatican le droit d'asile en Italie. 64 associations veulent peser sur la présidentielle et lancent le pacte du pouvoir de vivre. Parmi ces organisations, la CFDT, la Fondation Abbé Pierre, la CIMAD ou encore Oxfam et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Ces organisations présentent 90 propositions qui portent notamment sur les sujets économiques, sociaux, environnementaux ou de démocratie. Entretien avec Amandine Le Breton-Garnier, directrice plaidoyer et prospective au sein de la Fondation pour la Nature et l'Homme.
Le pouvoir de vivre a été créé en 2019 avec une ambition, c'est de démontrer qu'il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale et sans renouveau de la démocratie. Et inversement, il n'y aura pas de transition sociale sans transition écologique. Et c'est de montrer que tout est lié finalement. Et ce pacte, il rassemble aujourd'hui des ONG environnementales, des syndicats, des mutuelles, des associations de lutte contre l'exclusion. Et cette ambition de travailler ensemble à plus de 60 organisations, c'est de montrer qu'il peut y avoir une autre vision de la société et des solutions qui répondent aux problématiques de chacune et chacun.
Et pour reprendre une formule publiée dans Les Échos, ce n'est pas un projet pour un candidat, mais un projet candidat.
C'est ça, le pacte du pouvoir de vivre donc lance sa campagne. Et notre ambition, c'est pas d'être élu, c'est pas de soutenir un candidat, mais c'est bien d'influencer le débat public. Alors pourquoi ? C'est parce que selon nous, le débat public n'est pas à la hauteur des enjeux. On sait qu'il y a le réchauffement climatique, les inégalités toujours plus importantes, un questionnement sur la vitalité démocratique de notre pays. Et puis il y a des sujets dont on entend beaucoup parler, notamment dans les médias, sur l'immigration, l'identité, etc. Or certes, ce sont des sujets importants. Ce ne sont pas les seuls sujets, il y a des sujets de préoccupation des Français qu'on veut, nous, mettre aujourd'hui dans le débat en amont de ces élections présidentielles, comme la question de vivre de son travail, de préserver les ressources naturelles, de réduire le changement climatique et la destruction de la biodiversité. Voilà, donc on s'est rassemblés pour porter ces sujets dans le débat public.
Vous l'avez rappelé, il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale. Réciproquement, il est important que cette campagne soit donc axée sur des sujets qui concernent directement les électeurs et notamment sur leur pouvoir d'achat, que ce soit au cœur de cette présidentielle.
Oui, il y a la question du pouvoir d'achat, mais plus encore, la question du pouvoir de vivre. Et c'est pour ça que notre collectif porte ce nom. La question, c'est comment on vit dignement aujourd'hui avec son salaire, comment on a accès, quel que soit son revenu, à une alimentation de qualité, comment on réussit chacun à se chauffer. Donc, c'est la question du vivre dans une société qui prend soin, qui protège et qui prépare l'avenir, notamment face aux défis écologiques auxquels on est confronté.
Estimez-vous que les ONG qui sont en contact direct avec les personnes, notamment en situation de précarité, devraient davantage avoir la parole durant cette campagne?
Alors oui, c'est aussi notre ambition. C'est-à-dire que la somme d'expertise, d'expérience qu'ont nos organisations, encore une fois, avec les organisations qui travaillent sur le terrain chaque jour auprès des plus démunis, auprès des publics, auprès des impactés par le changement climatique, avec les associations locales de protection de la nature, par exemple, toutes ces associations ont une expertise. Et c'est cette expertise qu'on veut mettre au service du débat public, montrer que sur le terrain, il y a des choses qui sont faisables, qu'on peut changer la société, que la société est déjà en mouvement, et que nous, associations, fondations, syndicats, mutuelles, finalement, on peut démontrer par notre expérience qu'on peut faire autrement et puis qu'on peut avoir une vision d'une société plus solidaire.
Il y a aussi la question du handicap qui touche des millions de Français. Ce sujet devrait être au cœur de cette campagne. Il est trop peu abordé pour le moment.
Oui, comme plein d'autres sujets, la question du handicap est un sujet central qu'on aborde avec le pacte du pouvoir de vivre, pas d'une manière déconnectée des questions de solidarité. Vous le remarquerez dans les 90 propositions portées par le collectif. C'est bien intégré dans une question de lutte contre les discriminations, cette fameuse société qui prend soin et qui protège. Donc oui, faire valoir des droits, des droits pour tous, et en particulier pour les personnes handicapées, c'est un sujet de mobilisation pour le pacte.
Amandine Le Breton-Garnier, directrice plaidoyer et prospective au sein de la Fondation pour la Nature et l'Homme, elle répondait à François-Xavier de Calonne. Les premiers cas de transmission locale d'Omicron signalés aux États-Unis et en Australie, ce nouveau variant du Covid est déjà dominant en Afrique du Sud et pourrait le devenir en Europe. Le nombre de cas d'infection au variant Omicron se monte désormais à 9 en France. Il s'agit de voyageurs rentrant d'Afrique. L'Organisation mondiale de la santé juge élevée la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial. À ce jour, cependant, aucun décès associé à Omicron n'a été signalé. Et puis la vaccination contre le Covid-19 sera ouverte à la mi-décembre aux enfants de 5 à 11 ans qui sont à risque de développer des formes graves. Elle sera probablement ouverte aux autres enfants en janvier de façon progressive et facultative. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. La France ne veut pas de patrouille conjointe avec le Royaume-Uni pour surveiller la Manche. Dans une lettre à Boris Johnson, Jean Castex déclare ne pas pouvoir accepter que des policiers ou des militaires britanniques patrouillent sur les côtes françaises. Il en va de notre souveraineté, affirme le Premier ministre français. Après la mort de 27 migrants dans la Manche le 24 novembre, Paris et Londres essaient de parvenir à un accord pour mettre fin au départ de migrants vers le Royaume-Uni. L'Assemblée nationale rejette à nouveau l'individualisation de l'allocation aux adultes handicapés en couple. Un nouveau texte appelant à déconjugaliser le calcul de l'allocation a été débattu lors d'une niche parlementaire des Républicains. Et puis ce 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Une journée qui vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes en situation de handicap. La 35e édition du Téléthon commence aujourd'hui, un marathon caritatif qui s'achèvera samedi à minuit, 30 heures de diffusion sur les chaînes publiques pour collecter des dons en faveur de la recherche sur les maladies rares. Le Téléthon est parrainé cette année par le chanteur soprano. L'édition 2020 avait été perturbée par l'épidémie de Covid-19. Enfin, l'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, élu du 18e arrondissement. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Excellent après-midi à l'écoute de Radio Orient.